Très bien. Alors, on sait tous que les deux Michael détenus pendant plus de 1020 jours par les autorités chinoises ont été libérés, sont revenus au Canada. Leur libération qui s'est effectuée quelques heures seulement après celle de Meng Wanzhou, l'héritière du géant Huawei, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle un échange de prisonniers politiques. Je détiens deux Canadiens, vous détenez une Chinoise, puis on fait un échange. Et bien sûr, ce qui s'est passé depuis les derniers mois a un impact direct sur le type de relation entre le Canada et la Chine. Pour en parler ce matin, Jean-François Lépine, qui a été directeur du bureau du gouvernement du Québec en Chine. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Comment t'as interprété donc la libération des deux Michael vendredi soir?
Ben d'abord, moi, autant on doit se réjouir de ce qui se passe pour ces deux personnages-là qui ont été pris dans un conflit où ils n'avaient aucune responsabilité, aucune. Et même le Canada, d'ailleurs, a été pris dans une histoire un peu malgré elle, qui était un enjeu entre les États-Unis et la Chine. Mais moi, ce que. Tu sais, quand vous venez de dire, on assiste, c'est comme un échange de prisonniers politiques. Moi, honnêtement, ce que j'ai retenu de tout ça et ce qui est le plus important, c'est que c'est en fait un échange d'otages. Les deux Canadiens ont été littéralement pris en otage dans un conflit entre les États-Unis et la Chine dans lequel le Canada a joué un rôle un peu forcé, qui n'aurait peut-être pas dû jouer. Et toute la technique des prises d'otages, ce qu'on appelle la diplomatie des otages. Pour une grande puissance comme la Chine, qui appelle constamment à l'entraide et la coopération sur les grands enjeux de la planète, c'est une reconnaissance en remettant les deux otages au moment où Mme Meng Wanzhou est libérée. Les Chinois confirmaient qu'ils avaient arrêté ces deux personnages-là que pour mettre pression. Et ça, si on se met à faire ça, ça devient extrêmement dangereux à l'échelle de la planète.
Mais Jean-François, pour ceux qui avaient des doutes, on a la confirmation que la Chine n'est pas un État de droit. On a arrêté les deux Michael. Ils ont eu droit à des procès. On les a fait parader. Et après ça, on les libère. Et tu me corrigeras, mais l'argumentaire chinois, c'était de dire on se fout de vos lois au Canada. Vous avez juste à la libérer puis à lui permettre de revenir en Chine.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a, à l'origine, arrêté ces deux personnages-là, les deux Michael. 9 jours à peine après qu'on ait arrêté ici de façon complètement ouverte et transparente Mme Meng en vertu d'un accord d'extradition qu'on avait avec les États-Unis. C'était une demande américaine. Immédiatement, la Chine a réagi en arrêtant deux personnes. Et vous dites, on les a fait parader. En fait, on les a jamais vus. Ils ont été enfermés pendant 1020 jours. On sait qu'ils ont subi 6 mois d'interrogatoire extrêmement difficiles, lumière allumée 24 heures par jour, des conditions absolument inacceptables. Si ça avait été simplement une question de diplomatie, par exemple, ou si ces gens-là avaient même été vraiment coupables de ce qu'on les accusait. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais la Chine, un journal chinois lié au gouvernement chinois, a dit officiellement, parce qu'ils n'avaient pas commenté la libération des deux Michael, ils ont dit que les deux Michael avaient accepté de reconnaître leur crime, mais qu'ils ont été rendus au Canada parce que leur état médical le justifiait. Alors, c'est une confirmation de la part de la Chine qu'ils ont agi complètement arbitrairement. C'est comme si, imaginez-vous, c'est comme si au Canada, là, on avait une entreprise canadienne qui était prise dans une situation délicate en Chine, et que pour obtenir la libération, disons, de ces Canadiens-là, on arrêtait deux Chinois au Canada, qu'on les détenait en prison de façon sans leur permettre d'avoir leur propre avocat, sans leur permettre de communiquer avec leur famille ou l'extérieur pendant plus de 1000 jours. Imaginez-vous la réaction que ça causerait à l'échelle de la planète. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait dans le monde une réaction à ce qui vient de se passer. Le Canada dit qu'ils vont travailler sur un accord d'une convention internationale contre la prise d'otages, mais la Chine, ce n'est pas la Somalie, par exemple, ce n'est pas le Liban des années 70. La Chine, c'est une grande puissance qui s'apprête à devenir la première puissance mondiale. Si elle procède comme ça, imaginez comment d'autres pays vont l'imiter dans le monde. La Chine est un modèle pour beaucoup de pays. Et donc, c'est extrêmement important pour le Canada, puis pour les États-Unis, pour les pays occidentaux, de soulever cette question-là, puis d'aller plus loin, et de forcer la Chine à vraiment revoir ses pratiques.
Jean-François, il y a un auditeur qui est propriétaire d'une entreprise qui, en temps normal, se rend en Chine 3, 4, 5 fois dans une année pour le travail. Depuis le début, depuis l'enlèvement des deux Michael, il se dit, est-ce que je peux devenir, parce que je suis un étranger, je suis un Canadien, je vais me faire moi aussi arrêter de façon arbitraire, injuste, et être détenu dans des conditions abominables. Il y a comme une nervosité, dit-il, de certaines personnes qui font affaire avec les Chinois.
Oui, la nervosité, elle est justifiée, Paul. Moi, je viens de passer 5 ans de ma vie là à dire aux entreprises québécoises, venez en Chine, c'est le plus grand marché au monde, c'est le pays des opportunités pour vous si vous avez des produits extraordinaires, et Dieu sait s'il y en a des produits extraordinaires au Québec. Bien avant même la conclusion de l'affaire des deux Michael, je disais de plus en plus, écoutez, je ne sais pas si je recommanderais autant aux entreprises de venir en Chine. Je pense que c'est important d'y être, mais il va falloir prendre des mesures. Et c'est pour ça qu'il faut que le Canada pose ces questions-là aux dirigeants chinois. Est-ce qu'on veut continuer à faire du commerce? Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce que nos entrepreneurs peuvent, de façon sécuritaire, venir en Chine? Pendant plusieurs mois, depuis l'arrestation des deux Michael, le gouvernement canadien, puis c'est ce que nous, du Québec aussi, on disait aux entrepreneurs, continuez à venir en Chine. C'est important, il y a des opportunités pour vous, mais prenez des mesures, c'est-à-dire soyez en contact avec l'ambassade du Canada, les consulats du Canada, les bureaux du Québec en Chine. Dites-nous là où vous êtes, ce que vous faites, et surtout ne contournez pas la loi. Si vous contournez la loi, vous prêtez flanc à une justice chinoise qui n'est pas une justice transparente, et comme vous dites, vous risquez des conditions dans lesquelles vous aurez beaucoup, beaucoup de difficultés à vous défendre. Et nous-mêmes, on ne pourra pas vous aider. Moi, j'ai un ami québécois qui est un entrepreneur québécois qui est, depuis plusieurs années, qui est littéralement pris en Chine. Il ne peut pas sortir de Chine parce qu'il a un différend avec d'anciens partenaires commerciaux. Et le gouvernement chinois a inscrit dans son passeport une mention qui indique que dès qu'il veut sortir de Chine, les policiers lui disent « Non, tu retournes chez toi, tu restes en Chine tant que l'histoire n'est pas réglée. » Donc, c'est un climat effectivement extrêmement délicat, mais on ne peut pas se passer d'un partenaire commercial aussi important que la Chine. Donc, c'est un dilemme. C'est un dilemme très important.
Jean-François, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience, évidemment, puis d'avoir pris le temps ce matin. Bonne journée.
Merci, Paul.
Au revoir. Jean-François Lépine, qui a été directeur des bureaux du gouvernement du Québec en Chine.